R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Ben, merci d'être venu ce soir. Donc ce soir, on va faire une petite présentation des recherches que j'ai pu mener depuis à peu près 5 ans, et notamment autour d'une plateforme web que je suis en train de développer, notamment en partenariat avec Kiasma. Et donc ça va s'orchestrer sur une forme de discussion avec Olivier autour des différentes recherches et des axes qui ont pu être développés donc, depuis ces années. Et puis après, je pense qu'on fera une discussion plus ouverte. S'il y a des interrogations, des questions, des pistes. Donc pour introduire un peu cette rencontre, c'est une résidence qui va être menée ici pendant un an avec différents chercheurs autour notamment de cette plateforme qu'on va faire la démonstration ici en l'utilisant dans un jeu de discussion, de questions-réponses. Et voilà, je passe la main à Olivier.
Alors c'est moi qui commence. Bonsoir Vincent. Peut-être pour commencer, c'est intéressant de parce qu'on démarre là ce soir un chemin qui est un peu du même type que celui qu'on a aussi accompli avec Ismaël Barry les années passées, c'est-à-dire on est au tout début d'un processus de travail et ce qu'on se propose, c'est de parcourir ce processus au fil de rencontres pendant un an, en même temps voir évoluer les matériaux qui sont produits et puis voir un petit peu comment les choses s'organisent, sachant que la résidence de Vincent a aussi pour objet des invitations à participer à un projet qui est à la fois une œuvre, un outil. On va en parler un peu en détail juste après. À l'origine, on a travaillé avec Vincent pour la première fois ici en 2012 pour une exposition qui s'appelait Trafic de légende et qui était dans le cadre d'un cycle d'exposition où on présentait justement, vous l'avez vu au tout début de la présentation, une pièce qui elle-même était déjà une forme de pièce-outil, en tout cas une pièce qui était une pièce autogénérative. Sperlmuller's Dream, qui était une pièce qui travaillait en fait sur une association d'images, des images qui étaient pour la plupart issues de l'histoire coloniale, aux images qui avaient une charge particulière et qui, dans le cadre de cette exposition-là, d'ailleurs, accompagnaient d'autres œuvres qui questionnaient la mise en récit et les mythes coloniaux, notamment les mythes du Nouveau Monde. Donc on la voit encore au fond, cette image-là évoluer. On va en parler avec Vincent. C'était un petit peu moi le premier contact que j'ai eu avec son travail. Pour dire aussi le contexte, je me rappelle qu'on s'est rencontrés donc aux Beaux-Arts de Paris pour l'exposition que tu faisais dans le cadre de la Seine, qui est donc le post-diplôme des Beaux-Arts de Paris. Et tu faisais une exposition qui s'appelait « Sous une mer d'intranquillité ». Qui jouait déjà sur justement une mise en relation entre le terme de maritime de la mer et aussi cette mer de l'intranquillité qui est une mer lunaire, donc déjà la mer d'intranquillité qui est une mer lunaire, et donc il y avait déjà une espèce d'effet de déplacement. On s'est rencontrés dans une exposition où il y avait des objets en fait, et ces objets qui étaient des objets plutôt sculpturaux. Qui évoquait des formes qui pouvaient avoir à voir aussi avec la question de la pêche au cachalot, la question des sondes, la question des germes, en tout cas ensemble de vocabulaire de formes qui étaient elles-mêmes déjà des formes à multiples entrées et qui déjà avec la sculpture et avec les variations sur la forme nous renseignait ton travail de quelque chose qui allait se poursuivre après, qui était ce rapport en fait d'une chose se déployant dans plusieurs sens et dans plusieurs directions. Et au milieu de ce travail-là, donc était un travail qui était aussi avec une présence formelle et physique très forte, avec des matériaux comme ça, acier, bois, il y avait un mur de documentation, j'essaie de m'en rappeler comme ça, un mur de... un mur d'images, en fait, hein, qui est des images qui étaient accrochées déjà à la façon d'un atlas un peu intuitif, comme ça. Et j'avais été intéressé aussi, interpellé par ça, dans la mesure où, en fait, le travail avait à la fois, dans cette exposition-là, une forme relativement aboutie. On avait un travail de sculpture et un geste qui était assez, comment dirais-je, assez précisé, et à la fois la présence de cette collection d'images avait quelque chose de... où il y avait beaucoup d'interrogations, il y avait une forme de, comment dire, de tâtonnement, d'intuitivité. Donc il y avait un contraste qui m'avait marqué entre un geste culturel très sûr, en tout cas qui était très abouti déjà, et à la fois cette espèce d'atlas dont on voit aussi peut-être un des ancêtres, une des origines à l'image, était plutôt un endroit de tâtonnement et de doute. Et j'avais été intéressé par cette question de cette relation entre un geste très sûr et puis un espace de doute.
Pour continuer, en fait, pour expliciter un peu dont parle Olivier, donc là, vous avez un petit échantillonnage, en fait, des différentes formes que j'ai pu développer. Donc, ce sont j'appelle ça des sondes, ce sont des objets un peu hybrides, des espèces d'agrégats qui fonctionnent, en fait, à partir d'atlas d'images, de références diverses, en fait, qui se croisent et qui définissent à un moment un objet et qui se construit au fur et à mesure. Donc chaque objet créé appelle à la création d'un nouvel objet. Donc le premier objet a défini la forme de tous ceux qui ont suivi. Donc cette forme un peu ovulaire, j'ai envie de dire, un peu. Les formes qui en ont découlé. Si je dois revenir un peu à la base du projet donc que je mène depuis 5 ans, que j'ai intitulé Sperm Whale's Dream, rêve de pêcheur de cachalot, il a été initié par une volonté de remettre un peu à zéro tout ce que j'avais pu faire pendant mes études aux Arts Déco de Paris. Donc en attaquant un nouveau cycle, on va dire, aux Beaux-Arts de Paris, j'avais vraiment envie de partir du postulat que... j'allais débarquer sur de nouvelles formes, de nouvelles problématiques, et il me fallait une base, et cette base a été initiée par la lecture d'un livre qui était un livre plus ou moins encyclopédique, le livre de Melville, le cachalot, Sperm Whale, Moby Dick. En introduction, je voulais vous balancer une petite vidéo que je vais vous lancer là. Ici, et après on continue. Commenter un peu cette image, c'est un document de la NASA, didactique. Ce qui m'intéresse, c'est tout autant l'objet, enfin le document en formel, c'est-à-dire cette espèce, les scientifiques n'ont pas besoin de ça, donc c'est un objet qui a été construit pour véhiculer, pour transmettre à un moment donné une recherche qui a été menée, donc c'est le lancement de la sonde Cassini et de son module Huygens, donc qui c'est la dernière mission, on va dire, de l'homme sur un corps céleste. À part le dernier, c'était sur l'astéroïde, sur la comète. Donc autour de Saturne, qui est un Titan, qui est un des satellites de Saturne. Je vous ai introduit cette image-là parce que ce qui m'intéresse notamment dans ce lien, c'est le rapprochement qu'on peut mener avec les recherches de Warburg, notamment autour de la figure de l'Atlas warburgien et donc des Titans et de la, toute la mythologie qui entoure ce travail-là. Ce qui m'intéresse notamment là-dedans, c'est comment à un moment donné des mythes, comment une culture emprunte à des mythes pour véhiculer certaines notions, et notamment là d'exploration et s'ancrer ouais, dans une... Aide-moi un peu. Dans une... On va dire dans une cosmogonie, quoi.
Peut-être c'est intéressant aussi que tu en dises un peu plus sur Abbé Warburg et sur aussi le fonctionnement de son atlas, qui est quand même une, à la fois quelque chose qui va jouer un rôle dans la manière dont tu as composé ton propre projet d'atlas, mais aussi dès le départ, comment tu as commencé à assembler les images qui t'intéressaient et comment ça a créé quelque part une forme d'expansion graphique et visuelle, un petit peu par... par viralité en quelque sorte.
Pour revenir à la base, en fait, j'ai découvert un peu Warburg sur le tard, donc à la fin de mes études, alors que je construisais pour mes recherches personnelles des atlas d'images, vraiment de type warburgien. Et en croisant avec l'œuvre de Melville Moby Dick, je me suis rendu compte qu'en fait, que Melville orchestré à un moment donné, regrouper des documents. Donc l'introduction du livre est ici. Il s'agit d'une liste de citations mythiques, on va dire. Le livre commence par ça, par un ensemble de citations et donc par une mise en place, on va dire, d'un imaginaire et d'un ensemble d'imaginaires autour de cette entité qui va décrire tout du long, qui est une entité ouais, mythologique, mythique. Quelques mots en fait sur mon protocole de travail. Pas évident pour moi de vous faire une démonstration en fait orale de ce que je mets en place là, parce que les liens sont multiples. Donc avec Olivier, on va essayer de jongler sur différentes... différentes facettes de l'espace que j'ai mis en place et les liens en fait qui les relient. Ta question était sur...
J'avais plus de questions, mais j'en ai une autre en fait, du coup, okay. Qui m'est venue entre temps, parce qu'on est censé avancer ensemble.
Ouais.
Tout à l'heure, je te disais, ce qui me semble intéressant dans une espèce de deuxième vie du travail d'Abbé Warburg, parce qu'il y a une espèce de nouvel intérêt très fort sur sa pratique d'atlas. C'est quelque chose qui a eu une actualité et puis qui est un peu...
Avec Didier Berman,
oui. Oui, mais je pense aussi chez beaucoup d'artistes ou même d'étudiants dans les écoles, c'est quelque chose qui est revenu très fort. Moi, je sais que quand j'ai enseigné, j'avais énormément d'étudiants, donc un peu moins d'une dizaine d'années de ça, qui, comme je te disais, dont la pratique était d'accumuler de la matière. Je me disais, ah, vous faites quoi et tout, mais j'accumule de la matière, quoi. Alors, je trouve ça toujours assez étrange, l'idée d'accumuler de la matière. Et donc, j'avais fini par créer deux catégories d'étudiants, ceux qui avaient des projets et ceux qui accumulaient la matière. Et ceux qui avaient accumulé la matière, en général, quand le moment du diplôme avançait et tout, ça devenait de plus en plus tendu parce qu'il y a le moment critique où la matière se cristallise en une forme ou pas, quoi. Et certains deviennent, il y a une jeune femme qui bosse, qui travaille à la BNF aujourd'hui, qui a tellement accumulé de matière que finalement elle n'en est pas sortie. Mais ça m'intéressait quand même beaucoup parce que ça posait une question assez intéressante. Si on reprend aussi dans le vocabulaire de Vincent la question aussi de la sculpture, qui va être à partir du, si on prend la sculpture même dans sa forme un peu canonique, comme le bois par exemple, d'avoir une première matière-forme dans laquelle on creuse une deuxième forme qui contient encore à la fois la matière, mais qui la reconfigure ou qui la repropose autrement. Il y a l'idée, en fait, que l'une des matières, en fait, la plus, la plus disponible, la plus importante à disposition des artistes aujourd'hui serait les images. Et donc, du coup, là où l'histoire en fait, de l'art s'est fabriquée sur les transformations de certaines matières, notamment si on prend l'exemple de la sculpture, là, effectivement, il y aurait peut-être l'idée que l'une de ces matières à travailler aujourd'hui serait cette espèce variété d'images et que Warburg est un des premiers, de manière aussi complète, à essayer de proposer des possibilités de faire quelque chose, non pas avec les images prises séparément, mais avec leur agencement, composant une espèce de nouvelle matière, c'est-à-dire plus simplement les sens individuels des images, mais bien ce qu'elles fabriquent en étant agencées, et agencées par des rapprochements qui ne sont plus que des rapprochements, comment dire, qui reposent sur l'encyclopédisme classique, c'est-à-dire vraiment des catégories de la science dure, mais des catégories sensibles. Donc voilà, donc ça, je me suis dit, à un moment donné, que Warburg est redevenu aussi important dès lors qu'en fait, l'une des matières avec laquelle ont eu affaire les artistes dans le monde contemporain étaient des images déjà existantes et parfois des images déjà ouvragées, c'est-à-dire déjà des images produites à dessein d'être des œuvres. Enfin, et ça c'est l'autre chose qu'on s'est dit aussi et qui est un deuxième élément moi, de ce qui me semble important dans le travail de l'Atlas, c'est que cette remarque toute simple autour de la question de ce qui se passe en ce moment de l'ère d'Internet, on a vite fait de dire qu'on est entré dans une ère totale de l'image, alors qu'en fait, on est entré de plein pied dans une ère de l'écriture, puisqu'en fait, les images sont les images numériques sont des écritures algorithmiques. Et donc, quelque part, on se rend compte que l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'à la fois des images écritures deviennent des images dominantes et qu'elles sont aussi, la plupart du temps et quasiment toujours, accompagnées de textes. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins affaire à une image isolée, comment dire, d'un rapport textuel, une image qui serait comme un paysage. Et donc, que le paysage d'Internet, c'est un paysage image-texte. Et donc, quelque part, pour pouvoir naviguer dans ce paysage-là et le sculpter et l'agencer, Warburg apportait une possible, comment dire, première proposition, j'ai l'impression.
En tout cas, moi, pour rebondir là-dessus, sur la naissance d'Archipel et sur cette nécessité, à un moment donné, que j'avais de créer un outil qui me permettait, en effet, d'établir mes recherches, mais de regrouper, du coup, des documents qui étaient variés, divers et variés. Tu parles d'images, de textes. Sur Archipel, il y a du son aussi, il y a l'hyperlien, j'avais la volonté de créer un outil qui me serve à moi, d'une part, et qui puisse servir à d'autres personnes, d'autres chercheurs, pas forcément dans le domaine des arts plastiques, mais aussi potentiellement dans le domaine des sciences humaines, qui permettait de mettre à plat, en fait, sur une table. Par table, c'est l'espace, en fait, qu'on a ici, que j'appelle table, et qui est un vocabulaire directement hérité de la pratique d'Abby Warburg, puisque les espaces qu'on a pu voir, celui-là par exemple, il appelle ça des tables. Donc de pouvoir...
On peut voir ce qui met en relation Warburg dans cette image-là, par exemple, parce que je trouve que c'est intéressant quand même, ce fameux titan dont tu parles.
Donc pour un peu expliciter ce qui se passe sur cette image, donc en effet, en haut à droite, nous avons le titan qui porte le monde, Atlas. Donc c'est la deuxième planche de la mnémosyne. La mnémosyne, c'est cette espèce de recueil, on va dire, de Warburg, organiser les différentes images. Donc il s'intéressait d'une certaine manière à, il appelait ça une parapsychanalyse de la culture. C'est-à-dire qu'il pensait que par le biais des images qui avaient été produites, pas qu'en Occident d'ailleurs, en rapprochant ces images, on pouvait analyser la manière dont les imaginaires s'étaient construits, et comment en fait différentes cultures s'étaient construites à partir de ces images, et comment finalement des symboles naviguaient, se retrouvaient dans certaines images, et en les rapprochant, comment on pouvait les faire exister de manière non, dans un rapport non chronologique et pas forcément directement formel. Donc nous avons ici en fait le mythe de Persée, ici l'Atlas, ici une représentation cosmique. C'est quelqu'un qui s'intéressait énormément, il parlait des astras, qui s'intéressait énormément à tout ce qui était, comment on pourrait appeler ça, astrologie même. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné de l'observation de choses au sein du ciel, se dessinait, on va dire, l'avenir d'une société. Et donc s'intéresser à différentes formes, comme le tarot, dans tout ce qui était divination. Pour éclaircir un petit peu ça, c'était quelqu'un qui avait été considéré comme fou, qui avait été interné, donc qui avait vraiment développé une psychose en 18, après la Première Guerre mondiale, et qui est sorti de l'hôpital psychiatrique, où il était soigné par un disciple de Freud, à peu près 8 ans après, à l'occasion d'une conférence dans laquelle il pouvait prouver qu'il pouvait avoir un propos scientifique. Donc prouver à des médecins, des psychiatres, que ce qu'il faisait n'était pas uniquement de la paranoïa. C'est-à-dire qu'elle s'inscrivait dans une analyse de l'histoire et des cultures. Pour rebondir là-dessus maintenant, je vais revenir là-dessus sur un document qui m'intéresse à mettre en relation avec Warburg, qui est ce disque en or, enfin de cuivre recouvert d'or, qui a été envoyé par une sonde, la sonde Voyageur et les sondes Pioneer, dans l'espace en 77, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. En 77, et donc qui avait pour vocation à un moment donné de... Donc c'est des enregistrements en fait, de la Terre, de différents musiciens, médecins de la Terre, qui avait vocation en fait, de communiquer d'une certaine manière avec une espèce extraterrestre. C'est un message, une espèce de bouteille jetée à l'eau et qui avait été donc à destination des étoiles, j'ai envie de dire, pour situer. Donc là, il y a un petit commentaire de Jim Carter que vous pouvez lire. Je ne vais pas écorcher, j'ai un anglais très très mauvais. Peut-être qu'Olivier, tu as qu'un meilleur anglais, tu peux nous...
This is a present for a small distant world, a token of our sounds, our science, our images, our music, our thoughts, and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours. Moi j'ai des problèmes d'yeux, donc j'ai un peu limite. C'est plus loin que moi, et moi j'ai des yeux qui vieillissent un peu. Mais j'allais pouvoir faire la traduction si on voulait, sinon. En gros, c'est effectivement une bouteille à la mer et l'idée aussi peut-être qui est aussi l'idée d'Atlas au départ, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui pourrait composer en un espace réduit toutes les composantes émotionnelles, matérielles, sonores d'une civilisation. Donc bon. A priori, les extraterrestres n'ont pas reçu, donc ils ne vont pas se dire qu'on n'a pas inventé le MP3, parce qu'on va avoir envoyé un fichier bientôt.
Donc ce qui est intéressant, en plus, gravé sur l'autre versant du disque, c'est un protocole pour pouvoir écouter le disque, en fait. Donc ils expliquent par des schémas, à un moment donné, à quelqu'un qui n'est pas humain, comment on peut lire ce texte, enfin ce message-là, et situe en plus où est la Terre, quoi, par une petite flèche, et donc le chemin qu'a fait cette sonde depuis son origine. Donc je trouve ça assez émouvant, un peu naïf, mais qui en dit long sur la volonté à un moment donné, j'ai envie de dire, de l'Occident, de se transmettre, j'ai envie de dire, c'est presque une, au-delà d'une bouteille à la mer, c'est presque une graine pour moi. C'est presque quelque chose qui est à destination d'un nouveau monde, mais comme presque une intrusion vis-à-vis de nouveaux mondes. Tout ça pour, au niveau des topics qui m'ont intéressé à partir du moment où j'ai mis en place toutes ces choses-là, le livre de Melville traitait d'une certaine manière des marges de l'Occident. Et donc, tout le projet, au fur et à mesure des recherches que j'ai engagées, m'ont poussé au fur et à mesure à m'intéresser à un moment donné à la relation qu'avait l'Occident à ses marges, et qui m'ont amené donc à me déplacer, qui m'ont amené à documenter, donc à travailler tout l'an dernier sur un projet itinérant à travers l'Atlantique sur un voilier pour remonter en effet des traces, et puis une trace du coup. Personnel, puisque je remontais d'une certaine manière dans un lieu de mon enfance avec un rapport que je voulais me confronter d'une certaine manière à l'outre-mer à nouveau, en tout cas au territoire martiniquais depuis lequel j'avais grandi et qui m'avait en partie constitué, quoi.
Et donc tu peux nous montrer sur l'atlas des choses qui se rapportent justement à cette exploration.
L'an dernier, nous avions travaillé donc à Kiasma avec une autre artiste, Marion Cross, qui elle travaillait sur le médium sonore, et on avait engagé une pièce radiophonique qui finalement a donné lieu plutôt à une table. Donc on partit 2 mois travailler sur le territoire martiniquais, sur la relation qu'avait entretenue, on va dire, la métropole à sa colonie, la Martinique. Et donc ça a donné cette espèce de gros fourbi que je vous éviterai de commenter parce que c'est extrêmement dense et qui avait donné lieu à un moment donné à des petits intermèdes, on va dire, sur la radio fantôme.
R22 tout le monde.
R22, excusez-moi.
Antenne Kiasma. Ça, c'était le spot de publicité au milieu de la... On peut quand même, en fait, peut-être à partir de cet espace et cette table que vous avez composée à deux, essayer de comprendre comment se composent ces tables. Parce que toi, tu es très familier de cet espace-là, mais nous, on le découvre. Et du coup, voilà, comment ça se compose, en fait, cette table-là? Des éléments sont posés, iconographiques, des textes, des sons. Voilà, comment ça se travaille et comment cette forme-là se met en place et quels sont les rapports même spatiaux qu'entretiennent les éléments, parce qu'il y a de fait une forme de composition. Et qu'est-ce qui préside, en fait, les choix? Je crois qu'on voit plus ou moins le schéma d'ensemble de cette pièce, Bel Saudade, à gauche.
Grosso modo, je vais vous faire une petite visite de la table, en fait, qui illustrera un peu la manière dont fonctionne Archipel. Donc, c'est un espace sur lequel on peut disposer des documents, donc les recadrer, les agrandir, les disposer par-dessous, pour pouvoir engager des espèces de navigation, de collage, j'ai envie de dire, de proximité d'éléments. Dans le cadre de cette table, il y a un espace, on va dire, qui est un regard, qu'on pourrait dire une action directement de la métropole sur sa marge, sur le territoire martiniquais, et après des axiomes, en fait, par les différentes communautés qui la composent. Donc on a, par exemple, ici, quelque chose qui tourne autour plutôt de la communauté béké. Nous avons ici quelque chose, si je me rappelle bien, qui avait un rapport plutôt avec Lissan. Donc différentes personnalités qu'on a rencontrées de manière directe ou indirecte. Lissan, évidemment, on ne l'a pas rencontré là-bas, puisqu'il était décédé. Mais on a rencontré des personnes qui nous ont aiguillés sur son œuvre et nous ont ouvert certaines pistes, notamment Victor Anissé, qui est un sculpteur et qui a été un ami proche d'Edouard Glissan. Nous avons ici sur la colonie, on va dire, le rapport agricole, on va dire, et les plantations, le domaine de l'habitation, avec différentes révolutions et différentes, on va dire, périodes historiques qui ont pu être traitées, et à chaque fois donc une espèce de juxtaposition de documents qui on pourrait les commenter, chaque lien, on pourrait les commenter, quoi, mais ce n'est pas le sujet de la rencontre de ce soir. En quelques mots, sur le fonctionnement d'Archipel, peut-être qu'on peut aller faire un petit tour sur l'Atlas. Donc on a 2 types d'espaces, hein, pour l'instant. C'était une plateforme qui est en cours de développement. Donc ce que vous voyez ici, c'est une version alpha du site, qui est évidemment en ligne, que vous pouvez évidemment visiter. Nous envisageons, enfin, là avec l'aide du DICREAM, donc du FNAGP et de Kiasma, on est en train de développer une version plus ergonomique et développer de nouveaux outils pour pouvoir notamment accueillir différents chercheurs sur ce site pour qu'ils puissent eux-mêmes développer leur recherche. Cet espace qu'on a appelé...
Peut-être préciser aussi ce que c'est qu'une recherche, que du coup là on voit un peu des blocs, donc où sont les...
Donc ici, en fait, est référencé l'ensemble des documents qui existent dans Archipel. Tous les éléments que vous avez pu visiter, donc aussi bien les images que les textes, que les sons, sont figurés par un petit symbole qui nous permettent, en fait, en cliquant dessus, d'avoir accès en fait, aux différents documents. Ça, c'est la version alpha. Si on bascule sur à quoi va ressembler la prochaine version... Ça ressemblera un peu plus à ça. Donc, chaque élément en fait est figuré par un ensemble de par un emboîtement, j'ai envie de dire, de symboles qui le caractérisent. Selon si c'est par exemple les catégories sont pour l'instant assez arbitraires. On est en train de le définir avec différentes personnes. L'enjeu de cette résidence est aussi à un moment donné de réunir des personnes pour penser au mieux cet outil. En fonction des besoins qui vont avoir lieu. Et donc on a les images plans, carrés, nous avons tout ce qui est de l'ordre du volume sous forme hexagonale et immatériel en rond, donc tout ce qui ne rentre pas dans ces deux catégories. Et ensuite, donc ça c'est ce qui contient le document, et ensuite des symboles intègres qui sont par exemple une représentation, une structure naturelle, une structure humaine, etc., etc. On est en train de décliner ces différents outils et les cercles qui entourent les objets, donc qui apportent une certaine densité à l'objet, correspondent aux tables dans lesquelles il est contenu. Donc on voit directement, plus les objets sont imposants, plus ils existent en fait dans différentes recherches sur différentes tables. On clique dessus, donc ils sont chacun codifiés par une couleur. Chaque table correspond à une couleur et donc on peut voir en fait au sein d'Archipel, enfin au sein de l'Atlas, sur quelles zones ils occupent, d'une certaine manière. Et quels espaces ils contaminent, etc. Par exemple, on voit là une recherche qui a été établie par Marion Cross, et on repère en fait que, grosso modo, les choses se situent dans une partie de l'archipel. Ici, c'était le projet radiophonique en Martinique. Donc on... etc., etc. Évidemment, il y a d'autres recherches qui englobent, par exemple cet élément-là, englobe un espace beaucoup plus grand au niveau d'archipel. Donc différents outils qui nous permettent un peu de situer ces éléments au sein d'archipel, mais aussi donc dans la version alpha, il y a d'autres outils qu'on mettra en ligne qui nous permettent de retrouver les éléments qui sont postés. Donc les derniers éléments apparaissent ici. Le moteur de recherche, pour l'instant, est assez rudimentaire. On pourra croiser différents moteurs de recherche pour pouvoir sélectionner au fur et à mesure les éléments qu'on cherche. Il y a également sur une map monde qui nous permettent de situer, par exemple en Martinique, les documents qui ont été situés au niveau de la Martinique. Exemple, un son, différentes images, etc. On pourra croiser les éléments. Il y a également des timelines qui nous permettent de repérer et de chercher des éléments dans une période temporelle donnée pour pouvoir chercher et travailler sur cette plateforme. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir croiser ces différentes choses et de créer de nouveaux outils pour permettre aux chercheurs à la fois de travailler sur Archipel, de retrouver des éléments et à la fois peut-être d'analyser comment... sur cet atlas, ces éléments s'organisent d'une certaine manière. Quoi. Un des gros enjeux prochains sera de créer, on va dire, une. Pour l'instant, les éléments sont placés de manière empirique par les chercheurs, ce qui détermine en fait des zones. Et prochainement, on espère mettre en place un système qui réorganisera ces choses-là par des pôles, on va dire, comme du magnétique ou des pôles de gravitation, qui permettront, selon la fréquentation qu'on a des tables, des internautes sur les tables, d'organiser ou de désorganiser à un moment donné cet atlas. Quoi.
Qu'est-ce qui fait que vous travaillez avec certains chercheurs ou pas d'autres? Et quel type de documents, qu'est-ce qui fait que certains documents rentrent dans l'atlas ou ne rentrent pas?
Alors au niveau des documents, j'ai envie de dire, tout peut rentrer. À partir du moment où ce sont des documents qui peuvent exister, on essaye en fait d'englober tout ce qui existe à peu près sur le web en ce moment, donc aussi bien des PDF, des images, des textes, enfin au niveau des médias. On essaie d'englober le maximum de médias. Et après, il n'y a pas de restrictions. Les seules restrictions qu'il pourrait y avoir sont des restrictions de droit à l'image. Vu que ce n'est peut-être pas un objet, on va dire, commercial, il y aura un formulaire qui sera mis en place avec, on va dire, une certaine éthique vis-à-vis de ça, quoi. Si jamais ça pose problème, il s'agira après d'une utilisation d'ordre privé ou public. C'est-à-dire que les chercheurs qui travailleront dessus pourront choisir de rendre public leur recherche ou privée afin de limiter, en fait, à un moment donné, s'ils travaillent qu'avec des images où personne leur interdit de divulguer ces images-là, de pouvoir continuer à travailler là-dessus sans les rendre publiques. Donc, les personnes qui ne sont pas inscrites sur Archipel ne pourront pas utiliser. Après, au niveau des personnes qui peuvent travailler sur Archipel, ce sont des comptes utilisateurs. Et donc, ça se fera, j'ai envie de dire, d'initié à initié. Ce ne sera pas quelque chose comme Facebook où n'importe qui peut s'inscrire. Elle se fera par des rencontres. Donc, à un moment donné, Olivier le transmet à d'autres personnes qui le transmettront à d'autres personnes. Donc, par affinité de chercheurs et de recherche qui créent d'une certaine manière une communauté de chercheurs sur Archipel. C'est une des modalités dans laquelle on réfléchit beaucoup à cette question-là, à savoir s'il faut ouvrir entièrement Archipel ou pas et dans quelle manière on peut le gérer, quoi. Parce que pour l'instant, on n'a pas de... si on l'ouvre entièrement, il faudra évidemment avoir une équipe qui gère ça derrière. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, quoi. Quand je dis nous, c'est que il commence à y avoir une communauté, ouais, de personnes qui travaillent avec ça et qui s'intéressent à ça, quoi. Et voilà.
C'est possible de savoir quels thèmes ou quelles choses sont abordées dans l'Atlas, oui. Enfin,
pour l'instant,
parce que le fait qu'il n'y ait pas de limite, c'est le fait qu'à un moment il y ait une limite qui donne un peu du sens.
J'ai envie de dire que le sens, il se fait peut-être par ce rapprochement entre des chercheurs. C'est là où ça va structurer à un moment donné une véritable cohérence d'ensemble, quoi. Pour l'instant, évidemment, les personnes qui ont travaillé sur Archipel sont des personnes avec qui j'ai pu travailler ou avec qui qui sont intéressées à ça, qui m'ont dit « Tiens, je m'intéresse à tes recherches, ça m'intéresserait de travailler comme ça. Et est-ce que je peux utiliser l'outil ?» Ben, vas-y, utilise l'outil.
Donc, pour aller voir, c'est quand même des recherches à toi.
Pour l'instant, au début, oui. Au début, ça a été essentiellement un outil que je pensais déjà développer pour moi. Et après, je me suis rendu compte que si jamais j'avais envie de développer, rencontrer des personnes et alimenter à un moment donné mes recherches, il fallait que je rencontre d'autres personnes, hein, et travailler avec eux. Ouais.
Et en même temps, tu ouvres le champ de recherche.
Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
Thématique, du coup.
Non. D'accord. Non.
Ce qu'on pourrait dire, vous avez un micro à votre disposition pour ceux qui veulent, c'est Sébastien qui l'a. Ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est que dans la version qui est en cours de développement, il y a à la fois pas de limite et à la fois il y a probablement quelque chose qui va se dérouler en donnant plus de valeur aux interactions qui sont créées. Admettons, moi j'ouvre une table, mais je décide de reprendre deux vidéos ici, une image que j'ai vue sur l'Atlas. Plus j'utilise des objets qui y sont déjà, plus je crée une forme d'intensité, alors c'est ce qui est en train de développer un peu, il y a donc une espèce de vocabulaire qui favorise quand même la question de l'interaction entre les recherches. Sinon, on va se retrouver avec vraiment un archipel, avec vraiment justement des points et des blocs très séparés. On a regardé qu'il y a des points qui sont très connectés et des points qui le sont moins. Je pense que l'idée à l'arrivée, c'est d'avoir quand même un ensemble de gens qui utilisent l'Atlas et avoir justement un petit peu comme chez Warburg, des usages sensibles du même document. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire comment on va trouver cette image-là qui ici est mise en relation avec ces autres images-là et ces documents et qui crée ce sens-là, et comment elle existe aussi dans un autre atlas avec tout à fait une autre perspective, en étant entendu qu'il y a des associations qui se font pour des questions formelles, pour des questions... De polysémie, pour des questions, en tout cas une espèce d'association des documents pour des raisons sensibles, avec quand même la perspective que peut-être Vincent n'a pas forcément souligné très fort là, qui est une perspective narrative, parce que l'autre, je trouve, fortune de Warburg aujourd'hui, c'est aussi qui correspond à une problématique narrative importante, je pense, de l'époque. C'est effectivement construire des outils et probablement des manières aussi de pouvoir faire récit de notre rapport au monde contemporain, qui est un rapport évidemment où les objets sont interconnectés, les récits interconnectés, et peut-être pour trouver des techniques narratives qui tentent de résoudre les points aveugles que propose la technique de récit historique de linéaire et mis en cohérence, qui est celui qu'on connaît. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes, notamment des artistes intéressés par la question et de l'archive et de l'histoire, et aussi des artistes inscrits dans des perspectives postcoloniales, qui s'intéressent à la question, au-delà du fait de raconter d'autres histoires, d'avoir d'autres méthodes pour raconter aussi d'autres histoires. Donc un peu une espèce de... Je pense que la question de l'Atlas pose aussi, pour Vincent, une étape... Ça, tu peux aussi en parler, d'une recherche aussi qui pourrait aller vers du performatif.
Alors, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas très à l'aise oralement. Moi, je fais des objets, je crée des outils, je crée des protocoles, parce que je ne suis pas un orateur, quoi. Donc, il y a un gros travail pendant cette résidence aussi de travailler ça. Et évidemment, un des enjeux que j'aimerais développer sont avec des partenaires qui sont beaucoup plus à l'aise que moi là-dessus, d'engager, on va dire, à tour de rôle, des jeux de rôle, des prises de parole et des communications par le biais de cet outil. Parce qu'en effet, cet outil, il a été pensé pour réaliser des conférences, même des cours. J'aimerais pouvoir le mettre à disposition de conférenciers, d'universitaires, de performeurs, de personnes qui pourraient développer, en effet, des vocabulaires ou des formes par le biais de cet outil-là. J'ai pas forcément envie de vous parler j'ai envie plus de parler du potentiel que des recherches que je fais moi-même, parce que je suis pas forcément à jour là-dessus, on va dire de manière orale, très souple à ce niveau-là. Et par exemple, un des éléments qui m'intéresserait de développer sont soit moi en retrait à travailler, soit moi en avant, mais dans cette espèce, voilà, de va-et-vient à partir de protocoles, en réutilisant en fait des protocoles de conférence, voilà, à travers ça.
On pourrait dire aussi que tu parlais des usages possibles dans le performatif, dans les cours, on pourrait aussi considérer, pour se rapprocher de la question aussi du film, que l'Atlas est une forme de montage, en fait. Mais donc, du coup, tente de résoudre la problématique, encore une fois, du montage comme élément linéaire, en essayant de créer un montage qui va dans de multiples directions. Donc, parce que là, on a vu qu'il y avait aussi des films. Donc, dans l'Atlas, au-delà même des ressources images et textes, il y a aussi des films, donc possibilité de créer presque des espèces de montage dans plusieurs directions. Donc, jouer sur aussi cette problématique-là du déroulement du récit, en fait.
On va dire qu'au sein de ma pratique, à proprement parler, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est d'organiser des espaces. Et ce que j'appelle espace, c'est à un moment donné des circulations, à un moment donné, entre différents éléments et comment on peut les rapprocher, les organiser. Comme l'exemple type était la première page sur laquelle on a regardé, qui était le montage que j'ai réalisé pour cette conférence, sur lequel je suis assez à l'aise en fait pour construire à un moment donné des espaces, assez mal à l'aise pour pouvoir les commenter. Donc c'est pour moi, pour l'instant, ma pratique est plutôt de vous proposer ça et vous de voyager à travers. Donc l'outil est conçu pour ça. À moi après maintenant d'arriver à développer des formes qui permettront de glisser d'un document à un autre. Voilà. Voilà.
La notion de temps peut être importante quand même parce que on ne sait pas vraiment où arriver en fait. Ça part ou ça va. Même si c'est juste une indication.
Alors, vis-à-vis de cette question, en effet, de où démarre le récit et où il se finit finalement. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un espace justement qui. J'ai fait un travail, j'ai pas mal développé des travaux au niveau de l'édition, où finalement la question du début du livre à la fin du livre ne se posait pas. C'était un espace dans lequel on voyageait avec des, en effet, un fonctionnement linéaire, mais une mise en place qui permettait à un moment donné, comme une carte, à un moment donné sourd, de pouvoir passer d'un élément à un autre et de construire sa propre narration. Après, au niveau des outils qui seront développés sur Archipel, vous voyez ici en fait des, comme quelque chose qui correspond à une espèce de post-it en fait ici, qui est non pas un élément mais un commentaire en fait sur donc qui peut être un fragment de texte et des éléments graphiques qu'on voit dessiner. Donc il y aura ces éléments qui existeront et d'autres éléments qui seront des éléments interactifs. À partir du moment où on cliquera, donc ça c'est en train de se développer, sur un élément, il y aura des commentaires, entre guillemets didactiques, qu'on utilisera comme on le veut, donc d'une manière plus ou moins didactique, ou détournée, pour pouvoir commenter et rapprocher en effet des éléments pour créer à un moment donné du récit, et des rapprochements entre des éléments. Donc ça c'est en train d'être mis en œuvre, quoi. Et ce qui nous permettra à la fois d'avoir des espaces, on va dire, très ouverts, comme ce qu'il y a là, et à un moment donné un peu plus directifs, dans le cas où une personne voudrait s'immerger et accompagner, on va dire, une analyse des éléments qui constitueront à la fois l'archipel et du coup à la fois les images présentées sur les tables. Voilà.
Ce que tu dis, c'est donc dans la version à venir, on a une espèce de possibilité de visiter un montage avec des éléments de guide de ce qui va présider à l'assemblage qui a été fait. Donc une espèce de médiation comme ça.
Une espèce de médiation de notice.
Mais du coup, moi, ça m'intéresse ou ça m'interroge, en tout cas ça, les deux en fait. Je me dis justement que typiquement, dans la proposition que tu fais, la question même de ce qui va mettre en lien ensemble ces images, c'est la question d'un récit sous-jacent qui quelque part peut être dans le régime performatif. Donc quelque part, il s'agit pas tant d'un élément didactique ou de médiation qu'un récit, qu'une possibilité de raconter et de mettre en récit. Alors effectivement, qu'on peut activer ou pas activer, quoi. Je comprends l'idée, mais en tout cas, il y a l'idée que ce montage-là lui-même se trouve être activé par du langage potentiellement.
Mais en tout cas, ce que j'espère mettre en place, c'est un outil qui permette à la fois d'être activé donc par la parole, mais à la fois qui puisse être détourné. C'est-à-dire que tous les outils qu'on met en place peuvent être également. C'est-à-dire quelqu'un pourrait très bien utiliser ça pour réaliser, un didacticiel. On va utiliser notamment Archipel pour créer un didacticiel pour l'utilisation d'Archipel. Une notice, donc une espèce de mise en abîme, aussi bien que détourner totalement ces éléments-là pour créer du discours ou rajouter de l'information, on va dire en sous-couche, quoi, en transparence qui va se superposer, on va dire, aux informations qui sont déjà existantes, quoi.
Voilà. Tu as évoqué en fait assez rapidement tout à l'heure le principe de communauté. Comment ça fonctionne, quoi? Comment en fait effectivement est-ce que l'idée, c'est quand même de travailler des tables à, comment dire, de manière collective, c'est-à-dire de pouvoir assembler, de faire des compositions ensemble? Tu me parlais tout à l'heure en me disant, oui, tu, Olivier, tu rassembles un groupe de travail et puis vous montez une table ensemble. Bon, moi, je ne travaille jamais collectivement, donc je ne sais pas comment on fait, mais faire un assemblage d'images avec d'autres gens, c'est le pire des cadeaux que tu peux me faire. Moi, je peux faire plein de choses avec d'autres gens, hein. Je peux venir commenter des choses, mais faire une composition avec d'autres gens, je dis ça parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un défi, parce que la question de la communauté, là où elle est intéressante dans Archipel, c'est qu'elle n'est elle est pas très contraignante, à vrai dire. C'est-à-dire, ça correspond assez bien à ce que je trouve, ce que Internet a créé comme communauté, c'est-à-dire peu de contraintes et pas mal d'interactions. C'est-à-dire, on peut faire pas mal de choses ensemble, mais finalement, sans. Après, quand tu crées des groupes de travail dans lesquels il faut fabriquer ensemble des formes, ça pose le même problème que dans la vraie vie, où fabriquer des choses ensemble, c'est un truc un peu compliqué. Et ce que je trouvais intéressant dans l'Atlas, c'est de proposer un mode d'affiliation, de collectif qui est assez minime mais qui est intéressant, et donc ça pose une question que je voulais te poser ensuite, c'est que si le nombre d'éléments n'est pas limité, on va, j'ai l'impression qu'on va plus naturellement vers l'ajout de nouveaux éléments que vers l'usage de ceux qui sont à disposition. Et je me posais la question de savoir si cet objet-là, il ne fonctionnerait pas de manière plus puissante s'il y avait un nombre limite d'éléments qui pouvaient exister et qu'on ne devait travailler qu'avec un nombre arrêté d'éléments pour produire une narration. Parce que je trouve que naturellement, on arrive sur l'Atlas, on construit son archipel, il y a tellement d'images disponibles, on va télécharger des choses. Qu'est-ce qui va nous guider à aller prendre quelque chose d'autre, à part le fait qu'on aime bien, le copain, tout ça, mais en réalité, qu'est-ce qui va nous guider vraiment là-dedans, si ce n'est une certaine forme de limitation? Et j'ai l'impression que l'absence de limite, elle va un peu contre l'idée de communauté. Mais peut-être que je me trompe, hein, j'ai un truc qui me vient comme ça.
Tu relèves un vrai problème, mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, vis-à-vis d'un document, je pense par exemple à ce document-là, il y a plusieurs documents. En fait, là-dessus, un élément est constitué à un moment donné, par exemple, d'un texte, d'une légende, d'un ensemble de caractéristiques, d'un titre, d'une image, par exemple, qui peuvent exister. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre peut très bien utiliser cette image-là pour raconter quelque chose d'autre, évidemment. Et ce qu'on pense mettre en place, c'est une fenêtre, en fait, de commentaires qui permettront, puisque chaque élément créé par chaque personne qui utilise le site, à un moment donné, son créateur peut modifier cet élément. Une personne qui n'a pas créé cet élément ne peut pas le modifier. Donc ce qu'on a envie de mettre en place, c'est une manière de pouvoir commenter, de rajouter des commentaires et inciter du coup le créateur à compléter, j'ai envie de dire, son objet, quoi, à le peaufiner, à l'améliorer, à le corriger même, si jamais il y a des commentaires, une date qui ne correspondrait pas, ou donc à optimiser, on va dire, les éléments constitutif d'archipel. Et la deuxième réflexion...
C'était la question de la limitation du nombre d'items.
Dans le cas où, j'ai envie de dire, ce qui va pousser à un moment donné les personnes à ne pas... Parce qu'évidemment, le risque, c'est qu'il y ait de plus en plus d'éléments. J'ai envie de dire, c'est la curiosité. C'est d'aller voir les recherches et à un moment donné, les moteurs de recherche qu'on va mettre en place qui nous permettront d'aller récupérer des éléments plutôt que d'en créer d'autres. Mais là-dessus, il y a toujours un risque, quoi. Le fait de limiter à un moment donné les éléments, je ne sais pas si ce sera réellement productif ou pas, quoi.
Après, il y a un autre risque, c'est si tu prends des stars, tout le monde va aller prendre les éléments des gens les plus connus, quoi. C'est un peu l'effet de...
Bon, après, la signature sera quelque chose de...
Si tu as touché le même élément que, je ne sais pas...
Après, au niveau de l'ergonomie, j'ai envie de dire, du site et de comment ça va se passer au niveau des comptes utilisateurs, parce qu'à un moment donné, ben, je confiais à Olivier Marbeuf. Olivier Marbeuf a envie de développer un groupe de recherche sur Archipel, créer des tables, et évidemment, il n'a pas envie que toutes ces données soient effacées par les utilisateurs qui vont le donner. Donc, il va y avoir, on va dire, une...
Bah, surtout toutes les vidéos de la compagnie créole que je vais charger, c'est sûr que ce serait un peu dommage.
Donc à un moment donné, il y aura différentes responsabilités. Donc il y aura un maître de recherche, puis on va dire par exemple un professeur qui travaillerait avec ses étudiants sur Archipel pourrait être maître de tout ce qui se passe sur sa table, responsable de tout ce qui se passe sur sa table. Et les personnes invitées pourront travailler à partir des éléments qu'ils ont rajoutés, mais pas modifier ceux qui n'ont pas ajouté, quoi.
Donc, il y a quand même une certaine forme d'autorité et d'hierarchie.
Mais du coup, de responsabilité aussi, puisque tu es responsable de toutes les images. Tu serais responsable de toutes les images qui seraient postées sur tes tables.
D'accord.
Donc, s'il y a des abus, c'est à toi qu'on va voir. C'est toi qu'on va voir.
Alors, après, l'idée aussi qui peut être quelque chose pour poursuivre aussi dans ce qu'on se disait là de développement d'archipel, on peut aussi considérer que chacune des tables, d'une certaine mesure, à un moment donné, devient une proposition de recherche ou une œuvre. Donc l'espace est une espèce d'espace de publication et d'exposition, auquel cas, ça répondait à une question aussi de par où on entre, il y a l'idée d'un espace permanent à explorer, puisqu'en fait, s'y expose dans un espace public des recherches, des œuvres particulière, donc là qu'il faut aller essayer de lire et de visiter. Donc là, il pourrait y avoir un grand nombre d'occurrences, au sens qu'en fait, là, ce n'est plus les interrelations qui seraient mises comme valeur de la... de la, comment dire, de l'archipel, mais plus de l'atlas, mais plutôt l'existence, quoi, l'existence d'œuvres quelque part. Ça veut dire que la question que je me posais, c'est savoir si on avait, en arrivant dans l'atlas, une forme de moteur de recherche qui permet de dire qui est en train de faire quoi. Et auquel cas, là, je vais vraiment cliquer Vincent Chevillon, la table des Titans, et puis j'arrive directement là. Auquel cas,
On est en train de développer en effet des moteurs de recherche qui permettront, on va dire, de filtrer. Enfin, c'est vraiment la question des filtres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, de chercher les éléments créés par Olivier Marbeuf dans une période qui recouperait, je ne sais pas moi, une temporalité donnée sur un territoire donné à travers des mots-clés donnés. Ce qui nous permettra de réduire, en effet, les axes de recherche, quoi.
Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, un corpus composé, admettons, on va le nommer, et il fait. C'est une forme d'œuvre. Est-ce qu'on peut, en fait, et là, je parle dans l'Atlas, mais peut-être même de manière extérieure, créer un ancrage qui permettrait, par exemple, qu'une personne se dise voilà, moi, j'ai créé une œuvre, je te donne un lien. Tu vas et tu arrives directement dans l'atlas sur cet endroit-là. Ce qui créerait un autre type d'interaction, c'est-à-dire là, à la fois une existence dans l'atlas et dans les interactions de l'atlas, mais aussi des espèces d'entrées verticales dans lesquelles on pourrait proposer de montrer une œuvre qu'on fait soi et qui envoie un point précis de l'atlas. Ce qui me semblerait créer des plateaux de l'atlas, je dirais, et puis des traversants dans un autre sens.
Il y aura en effet des moteurs qui nous permettront, par exemple, soit des moteurs de recherche, soit par des hyperliens, c'est-à-dire de cadrer à un moment donné une recherche sur l'Atlas, de générer un hyperlien à partir de ce cadrage-là sur une table donnée et de l'envoyer à quelqu'un pour dire « Regarde, je fais des recherches à tel endroit. » On va avoir donc création d'un hyperlien à un moment donné par un cadrage en appuyant sur un outil qui nous permettra. Là, il y a un petit outil qui est une espèce de punaise là, qui permet aux utilisateurs, pour l'instant, aux créateurs d'une table, de cadrer là-dessus. Donc si jamais, à un moment donné, je rouvre Archipel, on sera cadré sur cette zone-là, quoi. Sur cette table. Voilà. On réatterrit exactement. Donc en fait, il y aura un outil un peu plus performant qui permettra de générer un hyperlien pour pouvoir, à des chercheurs ou pour une communication d'un travail, de cibler un endroit très particulier.
Donc ça répond à la question du départ, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent renvoyer à une entrée dans l'Atlas à partir de leur propre recherche, donc on découvre ça, on va circuler à la rencontre d'autres recherches.
Donc en effet, après possibilité d'effacer cet hyperlien, de le remplacer ou d'en créer des centaines, puisque ça va. Voilà.
Moi, je ne connais pas du tout Arbivarbourg, comme ça, mais est-ce que tu pourrais nous parler de toi, comment ça se présente, ces atlas, et pourquoi c'est pas un encyclopédie, mais un atlas. D'accord. Et comment toi tu te sers, par exemple, comment tu navigues dans un atlas d'Arbivarbourg, qu'est-ce que tu vas y chercher, parce qu'il faut...
Ben, j'ai envie de dire que le rapport que j'ai... Par exemple, si on prend... on va dire que le travail que je fais à partir d'Arbivarbourg, c'est aussi des limites que j'ai pu avoir et une critique, d'une certaine manière, de son propre travail. Arbivarbourg pensait en fait la proximité des images par une proximité de monde et d'influence entre différents mondes. La conférence qu'il a faite à sa sortie d'hôpital rapprochait, on va dire, des cultes d'Amérindiens Hopi à des cultes crétois, à de la Renaissance italienne, par exemple. Il avait travaillé notamment, peu de temps avant sa mort, sur des rapprochements entre les Médicis, des manifestations des Médicis et les manifestations de Mussolini, quoi. Donc, à un moment donné, créer des ponts temporels et des rapprochements, à un moment donné, que ne permettait pas l'histoire classique. En tout cas, ce qui a été poursuivi d'ailleurs par ses élèves, Panofsky et Gombrich, qui étaient toujours dans un rapport chronologique à l'histoire. Et si on connaît d'ailleurs les recherches de Arbivarbourg, c'est parce que Gombrich les avait durement critiqués en parlant en fait d'affabulation et de délire paranoïaque, quoi. Moi, la manière dont j'ai de travailler, on va dire, l'Atlas, une des dimensions que j'ai rajoutées, et qui n'est pas une invention de ma part, hein, puisque finalement un bureau d'ordinateurs actuels fonctionnent de cette manière-là, possibilité de superposer, de recouvrir, donc à un moment donné d'occulter certaines informations pour en révéler d'autres. Quoi. Moi, je travaille vraiment par des frais proximité et par un moment donné des collages. Quoi. J'en ai dire que si je commente par exemple ce qui se passe ici, ce que permet à un moment donné Archipel, c'est d'intégrer des images à un ensemble d'autres images, par exemple d'intégrer ces disques-là à un moment donné à des représentations et des disques cosmiques dans une planche de Warburg, d'intégrer, je sais pas moi, ça, c'est du Morse, c'est SOS. Parce que c'est un... En fait, quand j'ai mis en place, c'est là où ça pourrait servir énormément les commentaires didactiques. C'est une des premières pièces que j'ai faites qui était en relation, on va dire, à l'outre-mer, j'ai envie de dire, à l'outre-monde. Quoi. C'était une installation toute con, un ordinateur branché dans une salle totalement vide avec juste un SOS en continu. Donc la pièce s'appelait Save Our Souls, Sauver nos âmes. Quoi. Et... Donc voilà pourquoi je l'ai mis là. C'était une espèce... Je voulais commencer à la base par ça. J'ai commencé en intégrant ce truc-là, qui était d'abord un appel de détresse pour inviter des personnes, puis après, ça continue à se construire par-dessus. Donc la manière dont j'ai travaillé avec Archipel, c'est une dérive constante et à un moment donné, des rapprochements. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je découvre des choses souvent a posteriori, comme on le fait dans un travail plastique. C'est-à-dire que j'ai une analyse a posteriori que je peux commenter et modifier à loisir, qui me permet moi d'évoluer dans mon processus créatif et d'engager de nouvelles pièces. Quoi. La plupart des sculptures que je fais travaillent comme ça, c'est-à-dire je réalise des objets et ensuite je réalise des extensions de ces objets et ainsi de suite. Et à chaque fois que j'expose des objets différents, évidemment, des installations différentes, des accumulations de choses. Et pendant les expositions, en général, je viens et je déforme les choses parce que mon travail a évolué et je continue à travailler là-dessus. Quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Donc c'est vraiment à un moment donné, par exemple, un fragment de texte permet de commenter, peut servir de commentaire à un moment donné à une image. Et évidemment, on a accès à l'intégralité du texte si on veut le lire. Quoi. Ce qui m'intéresse dans Archipel, c'est qu'on a accès aux documents complets tout aussi bien qu'à des fragments. C'est-à-dire de pouvoir cadrer, fragmenter à un moment donné l'information pour véhiculer et pour orienter, on va dire... un axe ou un débat, quoi.
Ce que tout à l'heure on se disait aussi, c'est que au fond, cet effet d'agencement et de production de sens par superposition, concomitance et brouillage, c'est quand même le propre de l'exposition en art contemporain. C'est-à-dire dès lors qu'on s'est retrouvé dans une situation où on a fait pour partie sauter les murs et on a confronté le spectateur à une vision où on voit plusieurs choses dans le même espace. Et donc avec cet effet d'agencement, finalement ce qui se joue sur l'Atlas, c'est ce qui se... moi quand on a parlé de ce projet-là, ce qui m'a intéressé, c'était de considérer que c'était quoi, de mon point de vue, ou j'irais plus précisément dans ma pratique, c'est ça pour moi le travail curatorial en fait. C'est-à-dire c'est la production d'un sens supplémentaire à partir d'objets qui préexistent et qui ont tous une autonomie évidemment de sens. Donc ils ont un premier sens qui est un sens irréductible en quelque sorte, qui a été... Et puis il y a un deuxième sens qui est un sens de la relation. Ce qui peut être un peu différent quand on a un objet plan comme celui-ci, c'est que ça fait moins exister dans l'espace les interstices, même si là on voit que ça se passe entre, moins expliquer l'idée que quelque chose se passe entre les objets, en fait, dans leur superposition et dans leur perspective, mais aussi entre les objets. Mais en tout cas, voilà, moi je trouvais quelque part cette idée-là à voir avec la manière dont j'ai l'impression, bon, c'est pas, encore une fois, on ne peut pas généraliser, mais tout un pan des pratiques curatoriales en art contemporain considère la mise en espace des objets. Alors, bon, chacun a sa pratique, mais moi, je me sens très proche de ça, d'autant plus quand on travaille avec des images. J'ai l'impression, que, par exemple, que l'exposition que j'avais fait, Angel with Dirty Faces, aux filles du calvaire, ressemblerait un peu à une exposition d'Atlas pour le coup. Donc, je suis aussi intéressé par le fait que c'est à la fois une manière qui va utiliser un outil neuf, mais qui peut-être retrouve encore une fois ce qu'on essaye de saisir dans la manière de raconter le contemporain tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, quoi.
Si je peux, enfin, pour répondre aussi à ta, pour compléter en fait la réponse à ta question, je pense que un des éléments qui intéresse le plus, c'est en effet ce qui se passe entre ces interstices et les passages qu'il y a entre les images. Archipel a été pensé de telle manière qu'on peut utiliser aussi les éléments pour passer d'une recherche à une autre. Par exemple, je ne sais pas moi, sur ce texte-là, on peut basculer d'une table à une autre, en fait. Donc Cosmo étant la table sur laquelle on était, là on bascule sur la table qui correspondait au travail qui avait été fait en Martinique. Et si jamais je rebondis, je ne sais pas, sur un autre élément, est-ce qu'il existe ? Il existe à la fois sur une autre table. Voilà. Donc on peut glisser à un moment donné de recherche en recherche par le biais des éléments qui le constituent. Et ça, c'était quelque chose qui était pour moi assez essentiel. Cette question à un moment donné de passage d'espace en espace, de monde en monde, de manière assez intuitive et assez fluide, quoi.
Donc il y a une logique de plateau aussi, donc, du coup, de l'Atlas. C'est-à-dire qu'il est à la fois... présenté visuellement tel qu'on l'a vu de loin comme une espèce de grande carte infinie, mais en réalité l'orientation qui serait peut-être plus juste serait plutôt un système en plateau.
En strate ?
Oui, parce qu'en fait, si on considère qu'il y a une verticalité de présence de l'objet, s'il est à plusieurs endroits en même temps, dans une logique un peu quantique, ce serait plutôt, plutôt des plateaux.
Oui, on pensait ça, dans une logique quantique, ouais, totalement. Mmh.
Il est à plusieurs endroits en même temps.
Exactement.
Ouais. Parce que, je ne me trompe pas, l'élément, il est répété ou on considère qu'il est à plusieurs endroits en même temps ?
Il est à plusieurs endroits en même temps.
D'accord, ouais. C'est ça.
En fait, l'élément est recadré et redéfini, mais il existe toujours sous la même forme, en fait, dans une fenêtre. Ce qui m'intéresse, c'est cette fenêtre aussi à côté qui lui donne un corps propre, je veux dire, qui n'est pas altéré. Qui peut être altéré dans les espaces, on va dire redéfini, remodelé par l'espace dans lequel il existe, mais qui existe en tant qu'entité sur Archipel, quoi. Et qui existe du coup dans l'Atlas. Toutes les entités existent en soi au sein de l'Atlas, donc il y a cette espèce d'espace dans lequel ils existent tous, quoi. Et il y a une dimension que Warburg prêtait, qui m'amuse pas mal, moi, dans cette espèce de relecture d'un moment donné de l'histoire, comment à un moment donné des documents peuvent être réinvestis et détournés à un moment donné de leur fonction première ou de leur origine première, c'est que Warburg était persuadé que ces atlas d'images qu'il faisait lui permettaient, comme une table d'aruspice, à un moment donné de deviner l'avenir. Ouais. Et que pour lui, leur pratique de historien était un rapport à la lecture du passé pour devenir, enfin, ou pour produire, du coup, ce qui allait à venir. Quoi.
Une logique divinatoire, quoi, en fait.
Ouais. Mais aussi dans une dimension d'engager potentiellement ce qu'il a à devenir. Le fait même de manipuler ces choses-là et de les rapprocher...
Il manipulait que des images, on est d'accord.
Pardon ?
Il manipulait que des images des choses.
Et des livres.
Et des livres.
Ouais. Il avait une bibliothèque sur laquelle il rangeait les livres par affinité de livre en livre. Une immense bibliothèque qui est maintenant à Londres. Ouais. Et qui reclassait sans cesse, quoi, en fait.
Il y a un roman dans son archive ?
Non, j'en rêve. À Hambourg, tu veux dire ?
Oui.
Ouais. Parce qu'il y a la fondation à Londres.
Où... Londres.
Tu veux dire, à Hambourg, c'était la bibliothèque d'origine, mais elle a été déplacée
à
Londres.
La fondation,
ok, d'accord. Ok. Je pensais que tout avait été déplacé à Londres au moment de avant la Deuxième Guerre mondiale. Quoi.
Surtout les photos. Peut-être c'est des facsimilés, je ne sais pas, mais je crois pas. Surtout les photos, en fait, justement tout ce qui est romancé à l'Amérique du Serpent.
D'accord. Parce qu'il était juif et absolument flippé. La folie qu'il a eue, c'est qu'il était persuadé qu'il était persécuté en fait. En 18, il collectait toutes les archives de guerre et à un moment donné, il est sorti de la guerre en voulant tuer sa famille pour les sauver, parce qu'il était persuadé d'être absolument persécuté. Donc, quand la Deuxième Guerre mondiale se pointait en fait en 1933, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, il a déplacé toute la bibliothèque et toutes ses archives à Londres. C'est là-bas qu'il est mort, d'ailleurs. Et je ne savais pas qu'une partie avait été ramenée à Hambourg. Il était fils de banquier. En fait, il avait renoncé à l'héritage de sa famille en échange, donc il avait donné à son frère cadet, en échange d'avoir accès à tous les livres qu'il espérait. Sachant que Warburg était à l'époque la plus grosse banque dans le monde.
Qu'il espérait quoi du monde entier.
Pardon ?
Tous les livres qu'il espérait.
Tous les livres qu'il espérait. Tous les livres qu'il voulait, son frère devait lui acheter.
Ah,
c'était le deal. Ouais. Sachant qu'ils étaient une des plus grosses fortunes du monde, donc ils pouvaient se permettre d'avoir à peu près tous les livres, les enluminures qui étaient vendables à l'époque. Quoi. Ce qui fait qu'il a un fonds assez consistant.
Si vous avez des questions, si vous avez des questions, des remarques pour Dominique.
Toi, la perspective, c'est aussi du coup de lire l'avenir. Alors.
Ouais. Enfin, de l'écrire, en plus. Ouais. Enfin, à mon échelle, déjà.
Voilà. Combien de personnes participent actuellement?
5 parce que pour l'instant, la bêta version qui a été faite pour un utilisateur. Donc en fait, les personnes qui ont accès au login peuvent potentiellement effacer toutes les données qui sont dans Archipel.
Donc, pour la raison technique.
Pardon ?
Pour l'instant, c'est pour la raison technique.
Ouais. Ouais, voilà. Okay. Donc très bientôt, ouais, on aura un super outil où on pourra travailler à plusieurs et moi, je pourrai dormir sereinement. Voilà.
Et c'est aussi le but de la recherche d'élargir le cercle de contributeurs qui ont un profil très différent, ou c'est plutôt limité à des personnes qui sont plutôt dans une recherche soit visuelle, soit...
J'ai envie de dire que le cercle va s'élargir par affinité.
Donc en fait... Des personnes de tout autre domaine, ça peut être un mathématicien, j'en sais rien.
Exactement. Okay. Moi j'espère de pouvoir avoir, et j'espère même... Avec les outils qu'on va créer, par exemple de migration à un moment donné, des éléments au sein de l'Atlas, d'organisation et donc de potentiellement de savoir, de référencement, de savoir qui va vers quelle image, enfin, ou comment, quelles sont les images les plus vues, les plus regardées, quelles sont les images, les successions d'images qui sont regardées au sein de tables, quelles sont les tables les plus visitées, de proposer ça même à des personnes pour établir des études quoi, à partir d'Archipel. Donc on essaie d'envisager un outil qui peut être en lui-même analysé et peut nous apporter des informations sur l'utilisation qu'on fait des images et la manière dont on a de circuler au travers des images. Ouais. Donc on verra ce que ça donne quand on l'aura mis en place. Quoi.
Ce que je trouve paradoxalement assez fascinant, c'est de... Quand je me suis demandé déjà en fait sur d'autres travaux à toi, c'est comment tu fais ce travail de recherche iconographique, je dirais à un moment où il y a une telle opulence d'images. Je me suis demandé ce qui avait présidé à tes choix d'images, plutôt celle-ci que celle-là, ou moi qui ai du mal à commander au restaurant quand il y a le choix entre deux plats déjà. Je me dis, si on me propose de faire une table avec à disposition tout Internet, c'est, encore une fois, c'est comme une espèce de punition, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à notre disposition. Alors, c'est quoi ? C'est alors une espèce de point de départ et qui va être une espèce après de point d'appui, et c'est comme un petit peu des dalles où une image en amène une autre, parce que du coup, c'est à la fois, en plus dans ton travail, à toi en particulier, parce que c'est aussi un truc qui est notable et qui ferait voir parmi d'autres recherches, il y a une recherche d'une qualité d'image. Les images que tu choisis sont des images qui ont une vraie qualité. Il y a beaucoup d'images photographiques, je dirais, le procédé photographique ancien, donc vraiment des images qui ont été numérisées, mais qui ne sont pas des images numériques. Pas beaucoup d'images comme ça de peu, quoi. Elles ont toutes un peu une valeur. Là, on voit cette planche-là, par exemple, il y a quand même une esthétique générale qui se dégage. On n'est pas avec... On n'a pas beaucoup d'images un peu baveuses, pixelisées. On n'a pas beaucoup d'images... On est avec quelque chose où il y a un choix. Bon, elle peut être plus pixelisée, mais si on veut, on a des... Voilà. Non, mais il y a quand même quelque chose d'une... Et puis cet usage du noir et blanc... qui est finalement assez, voilà, bah, dans le moment où on est aujourd'hui sur les images en noir et blanc, il faut les chercher pour les avoir. On n'a pas de. Donc il y a quelque chose qui est quand même, en tout cas dans ce que je regarde là dans ta table, en plus d'une proposition thématique et de mise en relation, une proposition aussi, comment dirais-je, esthétique avec des images de valeur. Donc je me dis que c'est quelque part un. C'est comme si tu ouvrais un, comment dire, assez large un outil, et finalement il était quand même très travaillé dans une logique stylistique et une esthétique particulière. C'est une remarque que j'ai faite il y a 2 semaines de ça, quand on avait ici rencontré Claire Malrieux, qui monte des images à l'exposition et qu'elle crée un algorithme du lâcher prise pour produire des images, des images qui ont toutes la même esthétique et qui sont extrêmement cohérentes. Donc à lâcher prise, qui est finalement paramétré dans une esthétique particulière. Donc on sent que quand même dans ton agencement, tu cherches aussi à créer une espèce d'image de Vincent Chevillon. Là, on est dans la table de Vincent Chevillon. Il y a une forme de geste aussi là-dedans.
Alors, je vais essayer de répondre d'abord à ta première interrogation de comment j'opère pour trouver mes images et pourquoi je choisis ces images-là. Il y a un terme créole qui est la drive. La drive, c'est écrit comme drive en anglais, et qui est un dérivé de la dérive, en fait, et qui est utilisé notamment pour les vagabonds ou pour les poètes. Donc, les gens qui sont en drive sont en général les jeunes gens qui, au moment de l'été, quittent chez eux et vont voir des amis les uns les autres, et en fait fonctionnent par d'une personne à une autre, à une autre. Donc il y a une espèce de dérive, je pense que je fonctionne comme ça, en fait. Je pense que grosso modo, je pars d'éléments, j'ai commencé à les rapprocher, qui en appelle un troisième, puis à partir de ces trois éléments-là, un quatrième, etc. Après, le choix des images, je pense que c'est par rapport à un intérêt particulier, d'un certain type d'image, et d'une certaine, j'ai envie de dire, historique. Beaucoup des images que j'utilise sont issues, on va dire, d'une histoire de la peinture occidentale, et à un moment donné, du tableau, quoi. Et vraiment cette question-là, quoi. La plupart des images que j'utilise sont des images extrêmement composées et qui portent en elles-mêmes, on va dire, énormément d'informations et une circulation dans les images, quoi. Ce qui donne un peu un des axes. Et après, en effet, qui sont des images, pour la plupart des images, j'ai envie de dire des imaginaires à portée, donc beaucoup d'images coloniales, je collectionne ça. Et je m'intéresse du coup au regard qui était porté sur, et du coup ce que ça dit sur le regardeur par ailleurs, quoi. Comment, à un moment donné, une personne d'une époque donnée va faire un tel type d'image, nous raconte plus sur ce qu'il est que sur ce qu'il regarde, quoi, d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment un des axes de recherche que je développe parallèlement à Archipel et que je collectionne et qui sont des images que j'étudie et que je travaille. Que, du coup, les images que je crée moi-même ont en général ont ce côté un peu suranné. Même les images photographiques que je crée sont construites par cette enquête. Je ne pense pas que c'est vraiment un goût. Je pense que c'est un intérêt plus, une curiosité par rapport à des études que je fais sur les images et sur les compositions et les manières dont elles sont faites. Quoi. Voilà. Du coup, j'utilise aussi des procédés qui permettent, photographiques, on va dire, qui permettent de reproduire des images qui hérité de procédés plutôt anciens ou, voilà, ou d'optiques anciennes. Voilà. Pour créer aussi peut-être une certaine ambiguïté vis-à-vis des objets ou des images que je crée, les matières que j'utilise, créer vis-à-vis de l'objet qui est créé une ambiguïté dans leur temporalité, j'ai envie de dire. À quelle époque ils ont pu être créés, quoi. En tout cas, c'est un fantasme que j'ai. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, c'est un fantasme que j'ai.
Le fait que d'autres viennent dans, finalement, ce qui est ton corpus de documents, en fait, qui est, j'imagine, soigneusement choisi et soigneusement ordonné, ça doit faire le bazar, quelque part. Ça doit créer sûrement des. Enfin, ça va forcément à la fois te plaire et à la fois te perturber.
Moi, je suis un pilleur. Hein. Je pille des images de plein de personnes et j'ai tendance à mettre sur le même plan les images que je crée que les images que je collectionne. Donc, ce rapport-là, finalement, j'ai pas de.
Non, c'est pas, je ne parle pas de l'auteur de ce genre de notion, c'est plus par rapport à tes goûts. Les documents que tu as choisis ils correspondent à des choses que, qui correspondent, on va dire.
Tu veux dire sur Archipel, oui, le fait que.
Quelqu'un qui arrive avec une image qui est justement, on va dire, mal composée et pas dans des teintes qui t'intéressent du tout.
Elle existera sur Archipel, mais elle n'existera pas forcément sur mes tables. Oui, c'est tout.
Oui, mais même du coup, le corpus de documents qui constitue le fond va être un corpus énorme. Quoi. Il peut être. Ensemble de plus en plus chaotique.
J'ai envie de dire que si ça permet pour moi de m'ouvrir à de nouvelles images, m'intéresser à un nouveau type d'image, c'est tout bonus. Et s'il s'agit à un moment donné de simplement d'images que je considérais sans grand intérêt et qui existent sur Archipel, je les utiliserai pas forcément, donc elles seront noyées dans la masse, j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'avoir un contrôle sur ce qui est mis dedans.
Mais c'est difficile parce que c'est un espace de travail quelque part, donc c'est plus un aussi.
Ouais, mais Internet est un espace de travail. Je sélectionne ce que je veux dedans et je travaille. Tu vois, pour moi, c'est pas, ça rentre pas, ça parasite pas mes recherches. Quoi. Non, c'est pas Google. T'as raison. C'est pas Google, mais par ailleurs, c'est pas que mes recherches qui sont dedans. Et l'enjeu, c'est à un moment donné que ça soit un outil pour d'autres personnes également. Donc, qu'à un moment donné, Archipel me glisse des mains et soit plus représentatif d'une certaine manière de mon travail, ça va avoir lieu. Mais à l'intérieur, il y aura mes recherches, comme il y aura les recherches, par exemple, d'Olivier ou d'autres personnes. On va dire que ce qui va donner une cohérence, comme disait Olivier, c'est certainement d'affinité en affinité. Quoi. Et là, il pourra y avoir, j'espère, des groupes de recherche et des personnes qui se mettront à travailler ensemble et qui ouvrira certainement des nouvelles perspectives sur les agencements d'images. Si jamais, par exemple, on regarde la manière dont je structure des tables et on regarde une personne qui travaille de manière très très différente... Tiens. Ah non, c'est close, excuse-moi. Même pas. Marion Cross, elle travaille sur. Attends, on va le choper sur Atlas, pour moi c'est plus simple. On va récupérer un élément. Elle travaille sur la cacophonie en ce moment, c'est une artiste sonore. J'ai juste retrouvé un élément et on va glisser sur la table directement. Par exemple, ce genre d'agencement m'intéresse d'une certaine manière. Elle a une manière de travailler qui est vraiment bord à bord, quoi. Qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'elle étale les documents et elle comble tous les trous avec. Quoi. Et ça, par exemple, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et par contre, je trouve ça intéressant, énormément, très intéressant par rapport au sujet qu'elle développe. Quoi. Et ça, pour moi, c'est des perspectives qui ne font qu'enrichir ma pratique. Quoi. Donc, c'est ce que j'espère en fait, au fur et à mesure. C'est que les propositions soient diverses, variées, qu'elles, sur un rapport, on va dire, iconographique, ouvrent le champ de la recherche et permettent de me perfectionner moi-même. Quoi.
Une fois qu'une table est faite, est-ce possible pour quelqu'un d'autre pour entrer dedans, pour essayer de reconfigurer un peu ce qui était déjà fait par quelqu'un d'autre. Si on peut en fait rejouer le jeu.
Alors il y a possibilité de créer notre table et de faire un copier-coller de tous les éléments.
Un copier-coller,
ok. C'est-à-dire que tu peux... Attends.
C'est ça, question intéressante pour les usagers.
Tu peux sélectionner en fait les éléments et les coller. En fait, par un clic droit. En tout cas, sur la nouvelle version, ce sera possible. Là, élément par élément, c'est possible. Mais non, c'est normal parce qu'on n'est pas en administrateur, là, on est en utilisateur. À partir du moment où tu es sur le compte administrateur, tu peux copier un ensemble d'éléments et du coup faire un copier-coller pour réagencer
ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc en effet, ça permet de créer des variations. Tiens, ça m'intéresse ce qu'il a fait là, je récupère ça, je colle, je récupère ce qu'il y a là-bas, je colle, pour pouvoir développer très très vite des tables.
Aussi dans l'inverse, si tu n'es pas d'accord avec ce qui a été proposé, ça sera possible de mettre quelque chose à côté en disant que non.
Exactement.
Il faut repenser complètement.
Il vient faire quelques corrections, on peut dire voilà, bon.
Non, mais c'est vrai, mais même pour soi, j'ai envie de dire, on peut à un moment donné se dire j'ai envie de garder ce qui se passe là et le développer un peu différemment. Il y aura aussi possibilité de sauvegarder différentes étapes de table et de pouvoir du coup y revenir pour pouvoir se dire mais attends, il y a un an on avait travaillé sur ce truc là, t'as beaucoup changé pas mal de choses, qu'est-ce qu'il en était ? Et de reprendre cette sauvegarde-là et de la remettre à jour et pouvoir travailler dessus.
Ce qui me semble intéressant dans le sens de ce que tu dis aussi, c'est pouvoir rajouter des couches de comment dire de tension supplémentaire. Moi, je sais que j'étais associé à un projet sur un jeu vidéo expérimental sur la danse dans un groupe de travail qui est lié à DDD à Bruxelles. Et c'était des étudiants qui proposaient un truc autour de. Faut pas que je dise bêtise, je crois que c'est Rayana, mais en tout cas c'est quelqu'un comme ça en fait qui danse. Non mais qui voilà une chanteuse qui danse et qui monte ses fesses, quoi, qui danse avec les fesses, presque comme truc mémotechnique. Quoi. Après elle fait d'autres choses, mais en fait c'est un truc avec les fesses. Et c'était marrant parce qu'en voyant ça, ils avaient fait toute une espèce de panthéon. Et moi j'étais revenu avec la danse des anguilles, avec la question comment ça de la du coupé décalé Côte d'Ivoire. Tu sais, tu y penses directement. Et eux-mêmes avaient tracé une ligne très américaine de ça. Donc, il y avait une généalogie très américaine contemporaine, comme ça. Et du coup, moi, j'avais pensé à plein de choses qui étaient des gens qui avaient un tout petit peu, comment dire, disparu, comme ça. Et qui étaient, par exemple, ces gens qui sont, quoi, je sais pas, ils ont 26, 27 ans. Et donc, quand tu dis MC Hammer, pour eux, MC Hammer, c'est un truc qui n'existe pas, en fait. C'est, ils disent, mais c'est quel siècle, 21e. Donc, MC Hammer, qui a été très connu comme danseur, mais qui est tombé totalement dans la désuétude, il a disparu. Et donc, on avait regardé, je me rappelle, ce que ça avait pensé à l'Atlas, directement, comme ils avaient Internet, ils ont googlisé et ils ont vu MC Hammer, donc avec son Sarouel, tout ça, où il a été célèbre sur 3 chansons. Hein. Mais quand même, il s'était. Donc, du coup, MC Hammer, Michael Jackson, la danse des anguilles, machin. Et donc, leur atlas de projet, c'était un workshop qu'on avait fait ensemble. Si on pense en termes d'atlas, ça avait été l'idée qu'ils avaient développé un truc vraiment, vraiment super intéressant, mais complètement articulé sur une. Comme un plateau très horizontal, justement, sur la danse noire américaine pop, on va dire. Et ils avaient refait un atlas comme ça, dans lequel tu pouvais faire des percées en disant, bon. Quand même, les danses avec les hanches, tu ne peux pas non plus limiter ça à la danse américaine ou vraiment à ne pas t'intéresser à la danse. Tu as vite fait de trouver. Donc, on avait par exemple, c'était avec Émilie Herman, on avait ramené la vaïnée, on avait ramené. Donc, tu vois aussi tout un autre ensemble d'imaginaires de danse des hanches, comme ça. Et du coup, ça fait penser à la manière dont une idée vient. Chacun vient additionner, comme ça, des. Comment dire, des questionnements. Et il s'était posé, voilà, après, évidemment. Énormément de. C'était un groupe de travail qui était assez vaste. Des gens avaient intégré des questions féministes après, de la question d'être propriétaire de son corps, et à la fois est-ce que c'est en le montrant ou pas. Et donc il y avait eu une espèce de truc qui avait un peu, en quelque part, fait exploser l'atlas de départ, parce que ces jeunes gens avaient une histoire qui tenait hyper bien debout, mais le workshop avait tout fait exploser par rapport périphérique. Mais donc j'avais pensé à une espèce de page d'atlas un peu bien rangée, qui avait un peu explosé sur la base de cette fait rajouter des choses dans tous les sens. Mais il me semble qu'effectivement, c'est peut-être aussi une perspective que tu n'as pas évoquée depuis le début, mais qui pourrait être aussi intéressante, c'est d'avoir un atlas proposé en workshop, comme avec des invités et par tous les bouts des gens qui proposent d'étendre au lieu de se dire de proposer de créer des pages, proposer d'étendre des pages existantes.
Et ça va être par les comptes utilisateurs, c'est-à-dire que tu peux rajouter des intervenants en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir tu as envie de chambouler ma table, je me dis je prends le risque, je sauvegarde ce que j'ai créé.
je crée une version 2B.
Engager une discussion, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il y ait des réunions de personnes à partir d'une recherche donnée, en venant intégrer des choses, ce que je fais déjà avec, avec les chercheurs qui sont déjà dedans. Quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils rajoutent des images, ils commentent, ils m'envoient des liens ou des hyperliens, et on a déjà une petite communauté de personnes avec qui je travaille. Oui. Après, évidemment...
Il y a des types qui vont troller les tables après, donc ça... Ouais.
Non, c'est important parce que si on pense ça, juste à une sorte de réponse, parce que moi je suis allé à Londres pour voir la collection de Vaux qui est derrière Londres. Enfin, je sais qu'il y a peut-être aussi un truc à Hamburg, mais à Londres il y a toute la collection de ces photos, ces images et tout ça. Et bien sûr, le problème avec ça, c'est qu'on peut entrer là-dedans, on peut utiliser les images de Warburg pour créer encore des histoires. Des trucs intéressants, mais à la base, toutes les images restent toujours dans les mêmes classifications qui étaient, enfin, qui étaient toutes faites par Warburg lui-même. Mmh. Et donc, ça, c'est le site web, ça fait partie de l'internet, qui est bien sûr un des composants plus importants pour la Society 2.0. Donc, ici, on a une sorte de Warburg 2.0. Mmh. Et donc, si c'est 2.0, qui est la Society de des usagers, même si c'est faux, parce que bon. Donc oui, je crois que c'est très important d'avoir la possibilité pour toutes sortes de changements.
En tout cas, c'est ce que j'espère. Ouais,
d'avoir une sorte d'archive 2.0.
Bon, ben très bien, c'est un bon début pour aujourd'hui, en sachant qu'en tout cas, tout le long de la résidence, l'idée, ce sera aussi de faire entrer dans cette communauté-là donc des participants, de les inviter aussi à venir parler de leurs contributions, donc que ce soit à la fois une manière de suivre ce que Vincent fait, puisque toi, à la table, tu l'utilises aussi comme une forme d'ordonnancement de ton propre travail. Tu fais différentes résidences de production en ce moment à différents endroits, où la table est un endroit qui aussi finit par être un espace de remise en relation des choses, de remise en ordre des choses. Il y a cet aspect-là. Effectivement, après, il y a l'aspect de tous les invités qui vont nous accompagner pendant cette année et qui vont proposer justement des tables, des interactions, des possibilités de...
Et qui vont même, ce que j'espère aussi par cette résidence, c'est de peaufiner Archipel. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est vraiment en construction. Donc l'occasion de rencontre comme ça, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui vont nous permettre d'élaborer des outils performants, on va dire, plus et avec une meilleure ergonomie également, de le tester et de pouvoir créer des outils à la fois plus performants et à la fois optimiser ces outils, j'ai envie de dire. C'est-à-dire d'avoir des outils qui soient... on pourrait créer indéfiniment des outils, mais à un moment donné, d'avoir des outils qui nous permettent de faire beaucoup de choses en même temps, le plus simplement possible. Quoi.
Ouais. Après, à côté de ça, peut-être en parallèle, parce que c'est aussi nous des préoccupations qui sont dans notre travail ici, il y a la question de créer des espaces de transmission et de pédagogie. En travaillant sur ce projet-là, je me suis aussi, dit, et c'est aussi des choses qui seront des vraies réflexions, que ça pourrait être aussi un assez bel outil pour des ateliers, de la pédagogie de l'image. Donc, est-ce que dans les... Là, tu parles un petit peu de figures un peu solides qui vont ouvrir des tables, on va dire, un chercheur, un artiste, en tout cas des gens comme moi, donc extrêmement éminents et réputés. Mais admettons, si on prend le commun des mortels, qui est plus nombreux que les autres. En tout cas, ce qui me semblait sans rire intéressant, c'est de se dire qu'il y a une dimension la table telle que je la vois là, j'imagine comme une table avec une dizaine de personnes autour. Qui mettent des images comme ça de tous les côtés, là, physiquement, comme si on était au-dessus. Je m'interroge effectivement sur aussi l'outil comme possibilité de construire dans un temps donné, donc là dans quelque chose qui ne serait pas du tout comme le même régime qu'une recherche, c'est-à-dire dans lequel on va prendre le temps d'assembler et de produire un sens relativement précis et agencé, mais plutôt le temps d'un temps d'atelier, de rassembler... voilà, dans lequel on, ouais, à la fois ludique mais producteur de sens, parce que expérimenter ce que les images fabriquent les unes avec les autres, ça me semble important, parce qu'en fait le fait de voir en même temps simultanément plusieurs types d'images et plusieurs formats d'images, d'abord c'est l'expérience d'image de beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai pas cela à la maison, mais il y a des spécimens qui vont effectivement téléphoner, regarder sur leur téléphone un film en même temps que la télé est allumée, et éventuellement avec un ordinateur, avec 3 ou 4 plans d'image simultanés. Il semblerait que c'est un truc auquel on doit s'habituer et qui va devenir une forme de banalité. Auquel cas, moi, au niveau de la construction sensible et émotionnelle aux images, ça m'intéresse de voir ce que ça peut produire. Comme il se pourrait bien que justement cet univers warburien 2.0 soit finalement un univers très facile à appréhender par des gens qui sont dans une dynamique de multi-images, et que ça construit justement des manières d'être en rapport avec les images qui soient pour le coup vraiment nouvelles, c'est-à-dire pas simplement l'accumulation du même, mais vraiment une espèce de rapport, de regarder l'image comme un espèce de tableau composé. Et je me dis, ça m'intéresserait en tout cas de voir des gens qui sont relativement jeunes travailler sur un outil comme celui-là, en laissant libre cours, d'agencer ce qu'ils veulent, de prendre ce qu'ils veulent, et de composer quelque chose, de les mettre en relation. Des vidéos, des choses, etc. Parce que ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un rapport à la propriété de l'image qui est différent. Moi, je me rappelle, des fois, moi, bon, j'ai un côté un peu... avant les années 2000, ou quelque part quand on utilise une image, on demande mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser, tu sais, moi ça m'est déjà arrivé comme ça, mais c'est un lapsus qui peut t'arriver, tu passes vraiment pour un con aujourd'hui quand tu dis juste mais on a le droit d'utiliser cette image, il n'y a pas un droit d'auteur qui s'exerce, etc. La notion de propriété d'image a complètement explosé, quoi. Maintenant il reste quand même quelques gens qui sur internet utilisent des systèmes pour empêcher qu'on puisse les traquer comme ça. Ce qui donne un côté mauvais joueur quand même, hein, faut quand même dire la vérité. Quand tu veux traquer une image, tu te rends compte qu'en fait, il y a un système de verrouillage et qu'on ne peut pas la traquer, qu'il faut la commander et la payer. On se dit vraiment que les gens... en tout cas, voilà, en moyenne, on ne se pose plus cette question-là du droit d'auteur. Je dirais qu'en vers les années 2000, elle a vraiment volé en éclat. Mais sans rire, c'est une idée qui a volé en éclat en 1 ou 2 ans. Hein. Je veux dire, moi, je fais partie des gens qui, faisant des images, la question du droit d'auteur sur Internet, on a passé 2-3 ans à en discuter sérieusement, notamment avec des journaux qui voulaient pouvoir exploiter l'image et sur le support papier et sur Internet. Et croyez-moi, pendant 2 ou 3 ans, on a été payé quand l'image était reprise sur Internet. Après, ça...
C'est encore un peu le cas, mais...
Moi, ça fait très très longtemps que c'est un truc qui n'a plus été évoqué... Elle est automatiquement reprise et automatiquement utilisée. Mais il y a eu un petit moment, en tout cas, Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un rapport à la disponibilité d'un espèce de monde des images, pour voir le côté positif de ça, que toute une génération de gens ont. Et donc, ça m'intéresse de voir comment tu assembles les choses quand tu dis toutes les images qui sont sur Internet sont des images à disposition. Parce que du coup, qu'est-ce que tu vas aller chercher ? Parce que moi, je considère que c'est vrai que c'est quand même... une image de la peinture classique, pour moi, je ne la prends pas comme ça en me disant tiens, j'ai ça, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui est une image qui...
Je n'ai pas trop de complexe.
Non, mais je l'ai vu, je me dis bien, t'es plus... Mais ça m'intéressait de voir ça, parce que autant de la belle archive ancienne, anonyme, etc., je vois, autant, ce n'est pas tellement une question de propriété, pour le coup, qu'une question de... d'intention de l'image. En fait, je trouve qu'il est plus facile de manipuler des images qui ont moins d'intention artistique que des images qui sont déjà des œuvres. Il me semble qu'elles sont déjà en train de raconter quelque chose, et donc les remettre en relation avec d'autres, il me semble plus difficile. Tu vois, l'image anonyme, une image de lynchage, tu en as une à un moment donné, bon, quelque part, elle a une vocation très paradoxale, tragique, esthétique... Mais au fond, c'est une image simple à utiliser au sens qu'elle est au-delà de la violence qu'elle contient, comme quelqu'un sur une, par exemple sur la chaise électrique. Non, quoique là, c'est pas un bon exemple. Mais Non, c'était pour dire qu'en fait, en tout cas, je pense que la question de la propriété, toutes les images qui sont là, qu'on peut toutes les prendre, ça m'intéresse de voir des gens qui sont vraiment, en tout cas, là, avec ces questions-là. Parce que derrière ça, la question que je me pose, c'est de savoir que dès lors qu'on déclare qu'on est propriétaire potentiel ou usiteur de toutes les images, est-ce que sur une table comme ça, si tu mets 10 personnes, ils ne vont pas mettre 10 Cristiano Ronaldo ? Ce qui voudrait dire que donc la propriété de toutes les images du monde revient à utiliser très peu d'images. Et ça, c'est un truc qui me semble vraiment important parce que quelque part, dans ta manière, dans ton usage à toi, comme celui de Marion, comme des gens que tu vas inviter, il y a des gens qui sont dans une espèce de conscience de la vastitude des possibilités des images. Mais ça suppose ça. Et en fait, j'ai l'impression que cette espèce d'hyper-disponibilité, paradoxalement, elle est contrastée par un hyper-usage des mêmes. Et est-ce que l'Atlas n'a pas justement vocation à aussi, entraîner ou donner envie, en fait, à cette... voilà, j'y viens à...
En tout cas, moi, l'usage que j'en fais, ce que j'observe à chaque fois qu'il y a des personnes qui rajoutent des images, parce que on voit les images apparaître au fur et à mesure. Il y a le petit outil là, qui, toutes les vignettes, en fait, on voit les derniers documents qui ont été postés. Moi, je me régale à visiter Archipel et à voir, découvrir de nouvelles images. Parce que, en général, les personnes qui travaillent avec ça sont des. En tout cas, les personnes là pour l'instant invitées sont des iconophiles finis, donc qui collectionnent des images d'une rareté, d'une qualité étonnante, quoi. En tout cas, moi, j'ai ce plaisir-là.
Mais c'est ce que dit aussi Louis. Alors, et quand les gens ils vont commencer à charger du Rayana, tout ça, du coup, ça va.
Bon, je passerai.
Quoi, des belles photos de Rayana, je veux dire, pas des photos bien cadrées, mais.
Il y en a un là, qui a essayé déjà de me mettre des images un peu bizarres, mais.
Non, c'est vrai que du coup, il peut devenir aussi un peu plus pop, l'archipel. Ah ouais, des zones, vraiment, ouais. Des zones plus pop, c'est possible.
Ah oui, je suis ouvert à tout. Hein.
Bon, mais très bien, mais merci Vincent pour ce soir.
Ben, merci à vous d'avoir été là, merci.